Document audio issu du site www.triarticulation.fr. On y trouvera le document complet. Voix de synthèse. À qui appartient la Terre? La lutte pour un droit du sol moderne. Par Christophe Straub. Deuxième partie. Je voudrais maintenant me tourner vers les réformateurs fonciers dans le mouvement social. Quelles idées pour une réforme foncière y a-t-il eu depuis le XIXe siècle? Qu'au moins quelques-unes de celles-ci soient esquissées ici. Henri Georges. Parmi ceux qui doivent être cités ici, appartient l'Américain S. Henri Georges, 1839-1897, un journaliste et réformateur social, qui avait aussi travaillé comme marin et cherché d'or. Il étudia particulièrement la pauvreté et la misère de logement dans les villes. En ceci, il parvint à la conception que cela était lié très étroitement à la question foncière. De cela, il fallait résoudre le problème foncier, si l'on voulait combattre la pauvreté. Le sol est rare et non multipliable, ses possesseurs peuvent sur la base de leur monopole imposer un tribut à d'autres pour l'utilisation, la rente foncière. Henri Georges proposa alors non pas d'étatiser le sol, mais de socialiser la rente foncière par un impôt sur la prise de valeur du sol. Les avantages injustifiés de la possession du sol doivent être réduits fiscalement et partagés en retour. Henri Georges était de l'avis que par une telle taxe unique, on pouvait gagner les entrées pour l'ensemble de la chose publique, on n'avait pas besoin d'autres impôts. On remarque volontiers, il ne s'agit pas en cela du bénéfice que quelqu'un atteint par son travail de paysan, gérant d'immeubles ou entrepreneur de construction de logements, mais par exemple de ce qui découle des augmentations de circonstances d'une parcelle foncière, ou d'une maison en gain sous forme de location élevée, produit de vente, on pense à un immeuble commercial en une ainsi nommée première main, ou à l'augmentation de valeur des champs, qui deviennent parcs d'exposition. Adolphe Damasque. Adolphe Damasque, 1865-1935, œuvra en Allemagne dans une direction similaire. Maître d'école et réformateur de vie. À Berlin, il contempla la misère de logement. Fortement orienté chrétiennement, il s'appuya dans son argumentation sur la Bible, donc, les humains auraient le droit d'utiliser le pays que Dieu leur a donné en prêt, ils n'auraient de droit que sur les résultats de leur travail, et non sur la valeur monétaire du sol, l'ainsi nommée croissance du rapport du sol. Comme Henri Georges, Damasque voulait réduire fiscalement cette croissance. Il trouva de nombreux partisans. On doit savoir que siégeait dans le Rassemblement national de Weimar plus de 70 Damasquiens de diverses couleurs de partis politiques. Cela se mire aussi dans certaines formulations de la Constitution d'Empire weimarienne de 1919. Ainsi trouve-t-on là dans l'article 155 la phrase « la prise de valeur du sol » qui apparaît sans mise en œuvre de travail ou de capital sur une parcelle foncière, est à rendre utilisable pour la communauté, c'est une formulation qui va beaucoup plus loin que notre actuelle loi fondamentale. Malheureusement, elle resta largement inopérante dans la pratique. Damasque n'a pas seulement fait des propositions générales sur comment on pourrait résoudre la question foncière en grand, mais a aussi participé à des projets de colonies, lotissements, coopératifs, donc aussi cherché le chemin de changement en petit. Silvio Josel. Il y a encore une personnalité importante à mentionner, le marchand et théoricien de la monnaie Silvio Josel, 1862-1930. Josel aussi a fait des propositions pour une grande transformation sociale. Il passa ses dernières années de vie dans la colonie d'un projet de réforme, la coopérative de production fruitière près d'Oranien-Dur. Silvio Josel affirme très fort que la terre n'appartient pas au peuple, pas aux États, mais seulement aux individus. Il n'y a pas de droit des peuples, pas de droit des masses, pas de droit de souveraineté nationale vis-à-vis du sol et ses trésors. Le droit des peuples n'a le droit de s'étendre que sur ce que la main humaine a fait. Aussitôt que nous admettons les droits des peuples, qui dépassent les droits des humains individuels, de tels droits se muent en guerre. Tous les humains, chaque humain individuel, a sur le sol, sur l'ensemble de la boule terrestre, les mêmes droits inaliénables, et chaque restriction de ce droit originel signifie pouvoir, signifie guerre. Pour cela je répète, veut-on la paix des peuples, alors doit être satisfaite cette première exigence, la terre appartient à tous les humains sans exception, et dehors avec le droit des masses, dehors avec la souveraineté nationale, qui porte atteinte à ce droit originel, chaque humain individuel a donc un droit inaliénable sur l'ensemble de la boule terrestre. Et également un droit à un bout de la terre. Ce n'est pas à prendre à la lettre, mais dans le sens d'une part juste au produit que nous offre la terre. La proposition de Jezel est cependant autre que les deux citées précédemment. Il ne dit pas, nous laissons tout d'abord une fois, se former la rente chez le propriétaire foncier, et la redistribuons alors ensuite. Mais il dit, nous laissons des préposés indépendants, liés à l'État, mais quand même indépendants, racheter le sol au moyen de papiers d'État portant intérêt, et alors ces surfaces de sol sont louées, et d'ailleurs aux plus offrants. Jezel dit, l'économie de marché est tout à fait en ordre, mais elle a une erreur de construction, elle ne fonctionne pas avec le foncier, et elle ne fonctionne pas avec l'argent, ce qui n'est pas notre thème ici. Nous plaçons, d'après Jezel, le mécanisme de marché seulement correctement, lorsque nous appelons à une concurrence entre les demandeurs de baux pour l'utilisation du sol. L'idée là derrière est que celui qui peut offrir le meilleur fermage est aussi le meilleur patron, qui cultivera le mieux le sol. On peut remettre cela en cause, mais il est de toute façon juste, que Jezel pose le doigt sur la plaie et montre, que notre droit du sol n'est pas conforme à l'économie de marché, et pas non plus conforme à la démocratie. L'idée qui oriente vraiment vers le futur, est celle que Jezel développe au sujet de ce qui pourrait advenir de ce qui est encaissé avec le fermage. Il dit en réalité que ce revenu, doit être distribué aux humains. En cela il pense tout d'abord aux mères et aux enfants, mais finalement cela conduit à l'idée d'un revenu de base inconditionnel pour tous les humains. Pour cela l'époque n'était alors pas encore mûre. Mais lorsque l'on pense plus loin l'ainsi nommé rente aux mères que Silvio Jezel propose, on arrive à cette idée. Un revenu de base inconditionnel, assurerait certainement que chaque humain, parce que justement il habite la terre, aurait aussi un droit sur une partie du produit, qui apparaît d'elle ou sur elle. Rudolf Steiner. Si nous parlons de réforme foncière, alors il y a un nom supplémentaire, que nous n'avons pas le droit d'oublier, Rudolf Steiner, 1861-1925. Dans le même temps où aussi Damasch et Jezel œuvraient, Jezel fut d'ailleurs un court temps ministre des Finances de la République munichoise des Conseils, Steiner essaya de mettre en route, un grand mouvement de rénovation sociale dans le sens d'une triarticulation de l'organisme social, dans lequel un nouveau droit foncier devait constituer une part importante. Cette triarticulation de l'organisme social, comporte la relative autonomie du domaine culturel, du domaine juridique et de l'économie, qui ne peuvent œuvrer fructueusement ensemble que dans cette autonomie. L'argument décisif de Steiner résonne, de l'art et la manière dont nous nous comportons avec le sol, nous amalgamons en permanence droit et économie, et contrevenons en cela aux nécessités de vie de l'organisme social. Quand quelqu'un acquiert par achat une parcelle de terre, ainsi cela doit-il être regardé, comme un échange de la parcelle de terre contre des marchandises, pour lesquelles l'argent d'achat vaut comme représentant. Mais la parcelle de terre, elle, n'agit pas dans la vie économique comme marchandise. Elle se tient dans l'organisme social par le droit, que l'humain a sur son utilisation. Ce droit est quelque chose d'essentiellement différent que le rapport dans lequel se tient le producteur d'une marchandise en rapport de celle-ci. Mais dans ce dernier rapport est essentiellement fondé, qu'elle n'empiète pas sur le tout autre type de rapport d'humain à humain, qui est instauré en ce que quelqu'un se trouve dans l'utilisation unique d'une partielle foncière. Il s'agit de ce que, avec l'échange du droit avec la marchandise, le droit lui-même est fait marchandise, lorsque le droit apparaît à l'intérieur de la vie économique. Un droit n'a pas le droit d'être vénal, il s'agit bien plus là de la question, à qui nous attribuons un droit et sous quelles conditions. Nous devons définir cela ensemble, comme grand état social de droit, ou comme société de contrat entre groupes humains individuels. Lorsque l'on mélange droit et économie, nous rendons le droit vénal et par cela l'organisme social malade. Le concept du lien social n'est pas pensé jusqu'au bout, fait silence sur la transposition conséquente. La triarticulation ne put jadis aboutir, tout comme toutes les autres conceptions réformatrices du début de la République de Weimar. Mais des impulsions de la triarticulation, surgirent beaucoup d'initiatives, dans lesquelles des humains cherchèrent de nouvelles voies pour mieux procéder avec fond et sol. L'échec des concepts de réforme de Weimar, eut certainement pour cause essentielle, qu'en 1933 vint le retour dans la barbarie. Sang et sol devint la devise, le contraire de l'utilisation sociale du sol dans une société moderne majeure. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il se présenta des points de départ pour un nouvel ordonnancement de la propriété, mais qui ne vont pas particulièrement loin, et ont bientôt été refoulés par la guerre froide avec la formation de fronts très idéologiques entre propriété privée et d'État. Malgré tout, il y a dans la République fédérale, la formulation déjà évoquée de l'article 14, la propriété oblige et son usage, à servir en même temps le bien-être de la communauté. Mais cela reste passablement non concret. Le concept de lien social n'est pas pensé jusqu'au bout, fait silence sur la transposition conséquente. Malgré tout, on arrive assez loin, pour que l'on trie l'utilisation du sol par l'état de droit démocratique. Cela signifie, la communauté a le droit de dire, ce qui doit être domaine professionnel, secteur d'habitation et ainsi de suite. On n'arrive pas plus loin de toute façon. Il y a un impôt foncier, mais il se fonde sur des valeurs fiscales standardisées, qui n'ont presque rien à voir avec la valeur de circulation de parcelles foncières. On a un impôt sur les mutations foncières, et oriente les délais spéculatifs, mais finalement on ne court finalement qu'autour des symptômes du droit du sol. On laisse tout d'abord un ordre foncier non social, et non démocratique et répartit des allocations logements et autres bienfaits, pour adoucir les conséquences. Ainsi sommes-nous confrontés dans la République fédérale, qui est fière de son standard social, avec de multiples difficultés, qui ont leurs racines dans le droit d'utilisation du sol, qui veut mener de l'agriculture écologique ne peut souvent pas payer les surfaces, il faut alors qu'il trouve des donateurs qui cherchent un logement paie dans l'allocation, respectivement dans le prix d'achat, une participation conditionnée par le prix du sol. Selon situation et mode de calcul, ce sont 20%, 40%, parfois jusqu'à 50% de participation au prix du sol. Ces choses génèrent de puissants effets de redistribution dans la société. Si nous avons aujourd'hui un toujours plus grand étalement des revenus, cela tient à beaucoup de causes originelles ensemble, qui résident dans la finance. Mais cela tient avant tout aussi, dans la croissance constante des valeurs foncières, qui conduisent à une permanente redistribution. L'utilisateur suivant d'une parcelle foncière, est toujours plus mal placé que le précédent. Le problème est de toute façon, que beaucoup d'utilisateurs suivants prennent cela malgré tout, parce qu'ils comptent déjà que leurs futurs utilisateurs suivants devront leur payer encore plus, et en cela seront encore moins bien placés. Nous butons là au vieux problème bien connu, que beaucoup d'esclaves ne rêvent pas de libérer les esclaves, mais d'avoir eux-mêmes des esclaves. Quand en Suisse, lors des votations populaires les lois de réforme foncière, ne trouvent jamais une majorité, cela ne vient pas de ce que la majorité des Suisses serait détenteur de maisons et fonciers, mais plutôt de ce qu'une majorité spécule l'être un jour. De tels blocages conceptuels ont aussi apporté avec cela qu'en 1989 la grande chance du bouleversement ne put être utilisée, bien que dans les pays en mutation, il n'y avait pas de propriété privée du sol au sens de l'Ouest. La situation aurait été ouverte, mais la chance fut manquée, aussi parce qu'à l'Ouest il n'y avait pas de discussion véritablement développée autour d'un droit d'utilisation moderne du foncier. Dans les années 70, il y eut une fois des approches pour cela. Jadis le représentant au Parlement fédéral SPD Peter Conradi, et d'autres politiques firent des propositions correspondantes, mais en 1989 la discussion avait depuis longtemps diminué. Après le tournant, NDT, la réunification allemande, est appelée le tournant par les Allemands, nous essayâmes, avec Peter Conradi et des amis du séminaire pour un ordre libéral à Babol, de décider l'Institut allemand pour l'urbanisme, d'organiser un congrès, qui serait particulièrement destiné aux représentants des communes dans les nouveaux lands. L'idée était de leur donner goût aux droits de superficie héréditaire, voire cadre, sur le motif, n'argentez pas maintenant toutes vos parcelles foncières, mais regardez une fois vers les bons exemples, comme Stockholm et Wolfsburg, qui montrent comment ça va autrement. Malheureusement, cela n'a pas fructifié, pas non plus par la présence du directeur de l'office foncier de la ville de Wolfsburg. Je ne connais pas d'exemple de ce que l'on ait transposé les exemples du congrès. Trop forte fut la pression, trop grande la séduction de se redresser en apparence par des ventes, plutôt que de se saisir de l'action durable des droits de superficie héréditaire, comme instrument de politique communale et aussi de leur financement. Ainsi après 1989 un développement du concept de la vénalité de fond et sol encore radicalisé par la marche en avant du mode de pensée fondamentaliste de marché. Le mot-clé résonne globalisation néolibérale.